Ah mais je suis contente de revenir après 4 ans, parce que j'étais venue il y a 4 ans déjà pour parler de la vie musicale sous la République de Weimar, donc qui était un peu ce qui s'est passé avant l'arrivée au pouvoir des nazis. Et là j'ai proposé une conférence qui est en fait un peu le sujet du dernier livre qu'on a écrit en collaboration avec un compositeur qui s'appelle Bruno Giner. On a eu une commande, enfin on a proposé à un éditeur de faire un livre sur les musiques interdites sous le Troisième Reich, donc qui était notre sujet de recherche commun. Et donc l'éditeur a accepté à condition qu'on fasse un ouvrage grand public. Donc on a fait un livre qui s'appelle donc, qu'on a appelé Entartete Musik, sur les musiques interdites sous le Troisième Reich. C'est un peu le sujet de la conférence de ce soir. D'abord pour comprendre quelque chose à propos du Troisième Reich, surtout pour les politiques en matière de culture et de musique, il faut parler de trois protagonistes. Alors forcément, le premier, c'est Hitler, ça, tout le monde le connaît. Hitler, juste pour rappel, alors j'ai mis quelques dates, juste pour le situer, c'était juste pour dire que déjà, c'était pas du tout un inconnu dans le paysage politique, bien qu'il ne soit devenu chancelier qu'en 1933. Il avait déjà fondé la SA, donc ce qui était un peu une milice service d'ordre à l'époque, qui chahutait déjà les concerts de compositeurs que les nazis jugeaient dégénérés, qui empêchaient des concerts d'avoir lieu. Ça, c'était dès les années 20. Il avait déjà fondé le Parti national-socialiste, qui va être interdit après le putsch et qu'il va refonder après sa détention. Voilà. Et une fois qu'il est devenu chancelier du Reich, la date importante à retenir sur le parcours politique, enfin les prises de décision très fortes, c'est l'incendie du Reichstag, qui est le premier prétexte pour restreindre toutes les libertés et ouvrir les premiers camps de concentration pour les opposants politiques allemands. Et puis cette deuxième loi, qui est la loi qui, comme son titre ne l'indique pas, est la première loi qui va permettre de purger l'administration et d'éloigner, de mettre à la retraite et de renvoyer tous les fonctionnaires juifs. Et il va prendre les pleins pouvoirs en 1934. Alors il y a vraiment deux personnages qui sont important aux côtés de Hitler. Ce sont deux personnages qui se détestent. Le premier, qui a une belle tête de vainqueur là, sur la photo que j'ai choisie, c'est Alfred Rosenberg, qui, malgré son nom, n'est absolument pas juif. Il est né en Estonie. C'est vraiment l'idéologue du parti. Il a rédigé le programme du NSDAP pour Hitler. C'est lui qui a pris la direction du Völkischer Beobachter, qui était vraiment l'organe du pouvoir nazi avant qu'il soit officiel. Il a participé avec Hitler à ce qu'on appelle le putsch de la brasserie, c'est-à-dire cette tentative de coup d'État manquée. Il a créé en 1929 une ligue culturelle qu'il a appelée Kampfbund für Deutsche Kultur, donc une ligue de combat pour la culture allemande, qui comptait notamment parmi ses partisans la belle-fille de Wagner, Winifred Wagner. Donc c'était une ligue extrêmement conservatrice, engagée pour la protection d'un art au sang pur. Donc l'idéologie en fait du sang pur, c'est vraiment lié à Rosenberg, qui va couronner sa carrière avec l'écriture d'un livre extrêmement virulent, antisémite, et c'est un peu un ramassis d'ordures, on pourrait dire, un peu comme Mein Kampf, donc qui s'appelle le mythe du XXe siècle. Et donc ce personnage-là, après il deviendra délégué du Führer, donc pour la formation idéologique, c'est l'idéologue du parti. Et lui, il ne tolère qu'une musique, celle dont les compositeurs ont été décrétés de sang pur, c'est-à-dire arien. Donc il va rechercher systématiquement les ancêtres de tous les compositeurs, jusqu'au quart de sang ou au huitième de sang juif. Donc c'est un obsessionnel de la pureté du sang. Et la musique que lui, il veut entendre, c'est de la musique folklorique, c'est-à-dire par exemple les danses bavaroises, donc de la musique populaire traditionnelle de l'époque, ou la musique des grands maîtres classiques. Donc ça, c'est ce personnage qui est vraiment l'idéologue pur et dur. Et l'autre tête pensante du régime, c'est Joseph Goebbels, qui va devenir le ministre de la propagande, qui déteste Rosenberg. Et c'est aussi grâce à cette présentation que vous allez comprendre comment les politiques s'articulent sous le Troisième Reich, parce qu'en fait, il y a un conflit permanent entre ces deux personnages. Donc quand quelqu'un organise un événement, l'autre, il organise un événement concurrent. Et même, alors après, il y en a d'autres qui sont concurrents. Göring, par exemple, si Goebbels interdit un compositeur, Göring le fait jouer dans son théâtre. Et voilà. On est vraiment sur. Donc c'est pour ça qu'on est sur des politiques un peu floues. Donc c'est le ministre de la Propagande, c'est lui qui a mis en place les premiers autodafés à travers le pays. Il a décidé, alors ce qu'on appelle en allemand Gleichschaltung, qui voudrait dire, normalement c'est un terme technique, qui veut dire la synchronisation. Ça veut dire qu'en fait, ils mettent tout le monde au pas. Et c'est le fondateur de ce qui me concerne, la Reichskulturkammer, donc la chambre de culture du Reich, à l'intérieur de laquelle il va créer des antennes, dont la Reichsmusikkammer, la chambre de musique du Reich. Petite présentation très rapide, juste pour que vous compreniez cette histoire d'acteur culturel. Goebbels, ce qui est important pour lui, c'est de donner une très bonne image de l'Allemagne à l'international. C'est quelqu'un qui a des affinités avec certains auteurs modernes, avec certains artistes expressionnistes. Il n'est pas du tout fermé dans sa vision culturelle. Lui, ce qu'il souhaiterait d'ailleurs, c'est, après la prise de pouvoir, pouvoir avoir un compositeur officiel qui va faire la publicité pour l'Allemagne. Et il est prêt à engager des modernes. Par exemple, Paul Hindemith, qui à l'époque écrit de la musique moderne, est encouragé par Goebbels. Tout ce qui peut servir le régime, en fait, est bon pour Goebbels. Et c'est pour ça qu'on verra plus tard qu'il va, certes, de temps en temps, autoriser des esthétiques qui ont été décrétées dégénérées. Donc lui, c'est plutôt un stratège. Et la victoire ultime va avoir lieu par Rosenberg sur Goebbels. Et finalement, Hitler va se ranger à l'avis de Rosenberg et va interdire progressivement tous les modernes. Donc ça me mène j'ai intitulé la conférence Musique interdite et musique officielle sous le Troisième Reich parce que les musiques interdites sont beaucoup plus importantes. Parce qu'en fait, le régime nazi n'a pas de vision politique claire concernant ce qu'il veut. Mais il a une vision très claire concernant ce qu'il ne veut pas. Donc, c'est pour ça qu'on a sans cesse des épurations, des renvois. Et donc, je commence par toutes ces musiques qui ont été interdites, décrétées dégénérées. Entartet, en allemand, ent, c'est le préfixe de l'éloignement, et art, c'est l'espèce. Donc, c'était un terme de biologie qui voulait dire au début qu'il s'éloignait de son espèce. Et c'est le clan Rosenberg qui a adapté ce terme à l'art et qui en a fait un véritable concept, qui culminera avec l'exposition qu'on verra tout à l'heure. Et alors, tout ce qui va être interdit, finalement, c'est tout ce que j'avais abordé sur la musique sous la République de Weimar. Alors, la musique sous la République de Weimar, c'est un kaléidoscope absolument fascinant et une modernité qu'on a eu du mal à atteindre, même aujourd'hui encore, quand je vous ferai écouter des œuvres qui datent de la période Weimar. Aujourd'hui encore, certaines œuvres ne sont pas aussi modernes. Donc c'était vraiment une période où il y avait une effervescence des arts absolument incroyable qui avait été favorisée par le fait qu'après l'abdication de l'empereur, la censure avait été levée en Allemagne. Donc forcément, cet espace de liberté où tous les artistes commencent à respirer, ça se ressent dans les arts. Ça se ressentait aussi, d'ailleurs, il y a eu un florissement très important de l'industrie du film pornographique en Allemagne dans les années aussi 1919. Donc il y a eu plein de choses qui ont pu sortir au grand jour. Et je vais vous présenter en fait rapidement tous ces courants de Weimar qui sont décrétés dégénérés. Le premier, c'est le courant de la musique atonale. Je pense que tout le monde voit ce que ça veut dire. C'est un courant qui cherchait en fait à sortir du système toujours des tonalités majeures, mineures, du cliché qu'on peut avoir par exemple de la musique de Mozart qui est très stable. Et il y a un compositeur qui a voulu un peu s'émanciper de toutes ces contraintes, c'est Arnold Schönberg. Et Schönberg, alors ça avait déjà été esquissé avant lui par Wagner, par Liszt. Liszt avait déjà écrit une bagatelle sans tonalité. Donc depuis la fin du 19e siècle, déjà ça éclatait. Mais c'est Schönberg qui va vraiment le formaliser. Donc ce qu'on appelle la musique atonale, c'est une musique qui peut sonner qui peut paraître très dissonante à l'oreille. Et Schönberg va pousser plus loin ça, parce qu'en fait, c'est un compositeur qui avait beaucoup besoin de cadre, et une fois qu'il a fait exploser le cadre de la tonalité, finalement, il ne sait plus quoi en faire, et il a une crise de composition qui dure plusieurs années, et il se recrée un nouveau cadre pour réussir à composer. Et son nouveau cadre, c'est de déterminer aléatoirement une gamme de 12 notes, puisque si on fait toutes les notes de la gamme avec les touches noires, on arrive à 12, il les met dans un ordre choisi, et après, donc il appelle ça une série, et après, cette gamme peut être répété à l'envers avec des effets de miroir. Ça ressemble beaucoup à de la composition mathématique et c'est ce qu'on appellera plus tard le dodécaphonisme, c'est-à-dire la composition à 12 sons. Alors, je vais vous faire écouter sa première œuvre entièrement dodécaphonique. Vous allez voir que c'est forcément atonal et un peu dissonant. Alors, donc c'est un exemple d'œuvre qu'on a appelée dodécaphonique, qui date des années 1920. Schoenberg, c'est vraiment celui qui va être le premier attaqué et le plus. Il va être mis à la retraite dès la prise de pouvoir en 1933, puisqu'il est à la fois juif et moderne. Et donc, pour le clan Rosenberg, il est taxé de bolchevique, puisque pour le clan Rosenberg, tous les modernes, de toute façon, sont d'affreux communistes, donc des bolcheviques. Et si en plus ils sont juifs, s'il y a une espèce d'amalgame. Alors, le clan Rosenberg s'appelle le clan Völkisch, donc du mot folk, le peuple. Voilà, donc c'est celui qui exalte la pureté du peuple. Alors, il y a un autre courant qui est visé très rapidement, c'est tous ces mouvements des cabarets, avec un compositeur particulièrement important qui s'appelle Friedrich Holländer, qui joue son propre rôle dans L'Ange Bleu, qui fait le pianiste de bas, qui joue son propre rôle aussi dans Foreign Affair, qui va être tourné après la guerre. Il a tourné dans de nombreux films. Il composait donc des musiques de revue, des musiques de cabaret, et il a fondé un théâtre qui s'appelait le Tingle Tangle Theater, qui était en fait au sous-sol du Theater des Westens à Berlin. Et le cabaret allemand est un genre par essence éminemment contestataire au niveau politique. Donc c'est aussi un des genres qui va être particulièrement durement touché, puisqu'après l'arrivée des nazis au pouvoir, certains cabaretistes vont avoir des peines de camp et donc être internés pour des durées plus ou moins longues dans les premiers camps, parce que les premiers camps de concentration qu'on appelait des camps de détention préventive, on pouvait en sortir après avoir purgé sa peine. Donc plusieurs auteurs de cabaret, dont Fritz Löhner Beda par exemple, vont être internés dans des camps et en sortiront plus tard, mais en étant complètement brisés psychologiquement, et pour certains, ils ne reprendront pas leur carrière. Alors là, je vous ai choisi un extrait d'une revue qu'il avait écrite en 1931, et il s'attaquait en fait déjà à l'antisémitisme qui était déjà très présent en Allemagne. C'est une chanson, en fait, donc le refrain est toujours repris avec les mêmes paroles, et puis fait l'énumération de tout ce dont les juifs sont rendus responsables. Ce qui est intéressant avec le cabaret, c'est que quand Goebbels va fonder sa chambre de musique du Reich, sa chambre de culture du Reich, il veut récupérer ce genre pour en faire justement un genre de propagande pour le régime, donc il essaye de fonder des troupes de cabaret nazis sur le modèle des troupes d'Agitprop qui parcouraient l'Allemagne avec un peu du théâtre de tréteau populaire. Et ça va complètement échouer, puisque, étant donné que ça doit être un genre contestataire et qu'aucune contestation n'est permise, l'échec va être total, mais il a quand même essayé d'impulser la naissance de troupes de cabaret. Alors, un mouvement qui est particulièrement intéressant et qui est vraiment à la fois dans les arts graphiques et dans la musique, c'est le mouvement Dada, qui est lui aussi né dans les années 20, donc vraiment après la fin de la guerre. On pense aussi en peinture, alors c'est pas Dada, mais un qui avait aussi la même démarche, ça pouvait être le peintre Georg Gross, puisque la démarche de Dada, c'était entre autres de choquer le bourgeois. Donc il y avait cet objectif de choquer, et vous allez voir ce que ça donne dans la musique. Alors j'ai choisi une œuvre d'un compositeur qui s'appelle Erwin Schulhoff, qui n'est pas, comme on dit parfois, il n'est pas mort à Térésine. C'est un compositeur, donc musicien dada, qui était juif, communiste, moderne, homosexuel. Voilà. Et il n'a pas été interné, il n'a été interné pour aucune de ces raisons dans un camp. En fait, il a fui l'Allemagne, il a pris la nationalité soviétique. Et quand l'Union soviétique a été envahie par les troupes nazies, il a été arrêté comme ressortissant soviétique et mis dans un camp de prisonniers de guerre. Et il est mort dès 1942 dans le camp de Würzburg. C'est quelqu'un, alors c'est vraiment typiquement un parcours arrêté au milieu d'une carrière extrêmement prometteuse. Il fait des œuvres très très diversifiées. Je vous encourage vraiment à écouter plusieurs styles. Là, ce que j'ai choisi, c'est vraiment Dada, et vous allez très bien comprendre pourquoi. Je pense que j'ai même pas besoin de citer les hymnes qu'on va entendre, puisque je suis quand même dans ce cadre-là. Je pense que vous allez reconnaître les deux hymnes. Alors quand on écoute ça, c'est très difficile de deviner que ça date que de 1919. Ça fait extrêmement moderne. Ça va très loin dans la provocation. Le fait de reprendre des hymnes, donc la Marseillaise qui est diffusée de façon très distordue, et puis l'hymne allemand, le Deutschlandlied, c'est quelque chose qui est extrêmement choquant pour l'époque. Et donc on est vraiment dans cette démarche. Alors Erwin Schulhoff ne va pas faire que ça, mais en tout cas il se faisait lui-même appeler le Musik Dada Eins, et le Musik Dada Zwei était un jeune compositeur qui s'appelait Stuckenschmidt et qui lui va survivre à la guerre. Alors, avec toutes ces autorisations, donc il y a des courants très modernes qui voient le jour, mais il y a aussi autre chose, c'est que avec la fin de la guerre, il y a eu des troupes américaines qui sont arrivées en 1918 en Allemagne et qui ont apporté pas seulement le chewing-gum, qui ont aussi apporté le jazz. Donc le jazz va être découvert comme ça. Il avait été un peu découvert à l'occasion de l'exposition universelle de 1900 en France, où on avait entendu des débuts de ce qui pouvait ressembler à du jazz. Mais là, avec la fin de la guerre, il y a des concerts qui sont organisés. Josephine Baker, par exemple, va faire des tournées. Donc le jazz prend une importance particulière. Et surtout, va donner naissance donc à ce que les Allemands appellent le Kunstjazz, qu'on pourrait traduire par du jazz artistique. En fait, ça veut dire du jazz savant. Donc pour montrer que c'est une musique populaire qui va devenir une esthétique savante, parce qu'en fait les compositeurs vont s'en emparer dans leur musique savante. Et l'exemple plus connu et un des exemples les plus réussis, c'est donc l'opéra Johnny spielt auf, donc qui date de 1927, de Ernst Krenek, qui est un des seuls compositeurs qui se soit exilé pour des raisons uniquement esthétiques. C'est le seul dont on parle dans l'ouvrage qui n'était ni juif ni communiste. Donc lui, il va choisir l'exil pour des raisons vraiment... Il était trop moderne et donc ce que le régime lui pardonnait pas non plus, c'est cet opéra, donc qui date de 1927, dans lequel Johnny, le personnage noir, a le rôle titre. Et finalement, donc c'est un personnage un peu voyou qui joue du saxophone, qui joue du jazz, il est cool. Et puis en face de lui, il y a un personnage qui représente vraiment la vieille Europe. C'est un violoniste qui joue les valses viennoises. Et donc c'est ce violoniste qui a un peu le rôle du méchant. Et Johnny va tomber amoureux d'une Allemande. Donc beaucoup de sujets qui fâchaient les nazis à l'époque. Et vous allez entendre dans un petit extrait, donc un air, c'est considéré comme un opéra, mais vous allez voir vraiment la fusion des styles. Il y a l'utilisation des petits coups de Charleston sur la batterie qui font très jazz. Il y a des syncopes, la façon de faire glisser aussi les instruments qui rappellent beaucoup le jazz. Voilà, donc là on est vraiment sur une esthétique qui s'est très bien nourrie de ce style populaire et qui reste dans l'esthétique savante. Il va y avoir aussi des répercussions de ça en France, mais en Allemagne il y a vraiment eu ce style très particulier qui est né. Et par exemple, Kurt Weill va beaucoup s'inspirer du jazz, notamment dans l'opéra de Katsu, Hindemith aussi. Donc ça va vraiment inspirer plusieurs compositeurs. Alors ça, c'est quelque chose qui n'est pas du tout connu, qu'on développe un peu dans le livre d'ailleurs, les expériences microtonales. Alors, en gros, la musique occidentale est organisée selon un système de demi-tons sur certains instruments, comme le piano. Si on monte les touches une par une, on ne peut pas réduire les écarts. On est obligé d'aller de la touche blanche à la touche noire. Mais il y a des écarts plus petits qui sont notamment beaucoup utilisés dans la musique traditionnelle, de tradition orale, qu'on appelle le quart de ton. Ça peut aller jusqu'au huitième de ton, seizième de ton. Donc c'est des choses très subtiles. Et le compositeur tchèque Alois Hába, qui était très actif à Berlin sous la République de Weimar, va s'intéresser justement à ce procédé des quarts de ton. Il veut écrire de la musique savante en quart de ton. Donc il fait fabriquer un piano, qui est en fait avec deux claviers superposés, parce que le troisième ne sert pas, mais ce sont deux claviers décalés, donc qui sont accordés avec un quart de ton d'écart. Et il va même faire construire des clarinettes en quart de ton, il fera même construire des trompettes en quart de ton, des guitares en quart de ton. Il va carrément composer un opéra entier qui s'appelle La Mer, en 1933, qui est un opéra en quart de ton. Alors sur les instruments à cordes, c'est très facile, il suffit de placer le doigt de façon un peu différente. Et alors vous allez voir à l'oreille ce que ça donne. C'est vraiment une musique très particulière parce qu'on n'est pas habitué. En gros, ça sonne comme si les instruments n'étaient pas bien accordés. Donc là, suite pour clarinette et piano en quart de ton. Alors, si vous connaissez quelqu'un qui se vante d'avoir l'oreille absolue, vous lui faites écouter cette œuvre, vous lui demandez de vous la transcrire en dictée, je serais intéressée pour voir s'il arrive à transcrire tous les quarts de ton. Et je vous encourage aussi à aller écouter un compositeur latino-américain qui s'appelle Juan Carrillo, donc C-A-2-R-I-2-L-O, qui est un Mexicain qui lui aussi s'est intéressé à ça à la même époque, qui va carrément faire construire un piano en 16e de ton. Alors, en fait, c'est un piano normal. C'est juste la façon d'accorder qui est différente. Donc sur ce piano qui est de taille normale, si vous faites de la première touche à la dernière touche, vous n'avez qu'une gamme. Ça ne fait que doudoudoudoudoudou et c'est tout. Et c'est que des petits intervalles. Et quand on écoute les œuvres de Carrillo justement pour ces pianos-là, c'est incroyable parce qu'on a l'impression que c'est des pianos qui font des sons comme des sirènes avec des sons qui montent très progressivement. Donc ça, ce sont des expériences qui vont avoir lieu à Berlin et aussi beaucoup à Prague, qui est à l'époque l'autre capitale très importante pour la vie culturelle. Et puis, alors, un dernier mouvement qui a eu quand même de l'influence sur la musique, c'est le mouvement de la Neue Sachlichkeit, donc la nouvelle objectivité. Ça, c'est arrivé à partir du moment où la République de Weimar connaissait un peu un redressement financier en 1923, quand les Américains ont injecté de l'argent pour un redressement économique de l'Allemagne. Et donc là, on s'est tourné vers un mouvement qui vantait plus le progrès technique, technologique, qui était plus sur la joie de vivre, donc un peu moins sur la dénonciation politique. Ils en ont presque tous composé, de la musique inspirée de ce courant. En fait, en musique, ça a donné lieu à un genre d'opéra qu'on a appelé le Zeitoper, donc un peu l'opéra du temps, qui vantait justement cette nouvelle technologie. Et alors l'exemple que je voulais vous faire écouter, c'est Royal Palace. Donc c'est un opéra, un Zeitoper de 1927, justement donc sur cette héroïne qui s'appelle Deyanira et qui est courtisée par deux hommes qui rivalisent de cadeaux et de technologie pour la conquérir. Et finalement, elle va les éconduire tous les deux et revenir à la vie simple. Et dans cette ouverture d'opéra, vous entendez justement plusieurs allusions à ces accessoires de la nouvelle vie moderne.
Thank you.
Alors, c'est un opéra qui avait été prévu pour que, durant l'ouverture, il y ait aussi une projection d'image sur le rideau de scène. Donc, c'était très moderne pour l'époque. Là, on entend très bien aussi toutes les influences qu'on retrouve dans l'opéra de Katsu. La particularité du Zeitoper, c'est vraiment les sujets choisis. Un des Zeitoper très célèbres, c'est Neues vom Tage de Hindemith. Et dans cet opéra, il y a une scène où l'héroïne vante les vertus de l'eau chaude. Donc elle est dans sa baignoire, chante un air sur le bonheur d'avoir de l'eau chaude au robinet. Et c'est un opéra auquel Hitler a assisté avant sa prise de pouvoir. Elle était habillée dans un justaucorps couleur chair, donc on aurait pu croire qu'elle était nue. Et à partir de ce moment-là, Hitler a détesté foncièrement Hindemith et toute la musique qu'il avait composée, enfin, et qu'il continuait à composer. Et puis, une des dernières mouvances, on va dire, alors là, vraiment extrêmement politique, un style musical qui s'est beaucoup développé sous la République de Weimar et qui va, par contre, pour sa part, continuer à se développer beaucoup sous le régime nazi, mais dans la clandestinité, c'est le répertoire des Kampflieder, donc qui voudrait dire des chants de combat, plutôt des chants d'ailleurs un peu de soldats, par exemple. Mais les Kampflieder communistes vont systématiquement viser les nazis dès les années 30. Donc, je vous avais déjà fait écouter, je me souviens, un Kampflied. Là, j'ai choisi le Solidaritätslied, qui est donc un chant pour s'unir contre l'ennemi, et derrière, la faucille et le marteau, bien évidemment.
Solidaritätslied. Vorwärts und nicht vergessen, worin unsere Stärke besteht. Beim Hunger und Vergessen, vorwärts, nicht vergessen, die Solidarität. Auf ihr Völker dieser Erde, einigt euch in diesem Sinn, was jetzt die eure werde und die große Näherin. Vorwärts! Und nicht vergessen, worin unsere Stärke besteht. Beim Hunger und Vergessen, vorwärts, nicht vergessen, die Solidarität. Schwarzer, weißer, brauner, gelber, endet ihre Schlechtereien. Reden erst die Völker selber, werden sie schnell einig sein. Vorwärts und nicht vergessen.
Alors, on est toujours sur une esthétique assez simple et en général très efficace. Quand on entend ces Kampflieder, on a toujours envie au moins de taper du pied ou de bouger la tête. En plus, c'est Eisler qui les compose, c'est un excellent compositeur, donc c'est bien fait, c'est du beau travail. Ces sympathies communistes, on les entend systématiquement par des couleurs de musique populaire russe ou quand on entend les chœurs de l'armée rouge, on pense aussi à ce type de musique. Donc ça, c'est sa façon aussi de montrer sa sympathie avec les idées soviétiques. Et les Kampflieder donc, vont vraiment se développer à partir du moment où les nazis commencent à prendre le pouvoir chez des auteurs comme Eisler, chez des chanteurs comme Ernst Busch, qu'on entendait là, qui faisait le soliste, des auteurs comme Bertolt Brecht, donc tous ces auteurs vraiment très très engagés, foncièrement anti-nazis, vont se lancer dans l'écriture de Kampflieder. Alors, bien sûr, Hitler, quand il écrit Mein Kampf, il est déjà en train de penser à comment faire de la propagande efficace, et il dit finalement la propagande la plus efficace, c'est de prendre des chants que les gens aiment bien, surtout que nos ennemis aiment bien, et d'en changer les paroles. Donc on prend les chants de nos ennemis et on change des paroles. Comme ça, nos ennemis, la première fois qu'ils vont les entendre, mais malgré tout, ça leur est quand même sympathique. Et il y a quelque chose qui se passe et qui va peut-être inconsciemment les retourner et les mettre de notre côté. Ce qui va faire qu'on va se retrouver avec des chants nazis, avec une esthétique proche de l'esthétique soviétique. Donc ça fait quelques paradoxes. Si vous entendez ça, c'est qu'il s'agit justement d'une reprise avec des nouvelles paroles. Alors, tous ceux quand même que je n'ai pas évoqués dans les victimes du régime nazi, ce sont des personnes qui sont mortes, puisqu'il s'agit des compositeurs juifs qui sont déjà morts au moment de la prise de pouvoir. Par exemple, Mendelssohn, qui va avoir sa statue détruite à Leipzig. La Mendelssohnstrasse va être rebaptisée en Brucknerstrasse d'ailleurs. Et il disparaît des programmes, ses partitions disparaissent des bibliothèques, les enregistrements disparaissent et sa musique est interdite. Problème pour le régime, il y avait une œuvre que tout le monde adorait, c'était Le songe d'une nuit d'été, dont est issue la fameuse marche nuptiale. Alors heureusement qu'il restait quand même le cœur des fiançailles de Lohengrin, parce qu'autrement, ils n'auraient même plus de musique pour se marier. En tout cas, cette musique était interdite, donc la décision qui a été prise, c'est de lancer des commandes pour la faire remplacer. Donc on appelle ça une version un peu arianisée du songe d'une nuit d'été. On garde le texte de Shakespeare et on lance une commande à des jeunes compositeurs, enfin des compositeurs de tous âges d'ailleurs. Et un des seuls qui va accepter, ils sont très peu à accepter, un des seuls qui va accepter cette commande et qui composera cette musique introuvable aujourd'hui puisqu'elle n'a pas d'intérêt, c'est Karl Orff, qui était relativement jeune à l'époque, mais voilà, qui est un des compositeurs qui va s'atteler à cette tâche. Et dans cette même idée, donc interdire les compositeurs juifs morts, il y a autre chose qui se passe, c'est on commence à se pencher sur les compositeurs qu'on aime bien, par exemple Mozart, mais il y a des livrets qui posent problème. Alors, comment on fait ? 1940, on crée un service de l'arrangement musical au sein de la Reichsmusikkammer. Donc, c'est normal qu'il n'y avait pas de chômage à l'époque, parce qu'avec tous les postes qui se créent en permanence. Donc là, on met des musicologues sur le coup, et ces musicologues-là sont chargés de réécrire les livrets. Par exemple, Mozart a écrit un opéra totalement inconnu qui s'appelle la Betulia Liberata, qui est sur l'histoire de Judith qui décapite son ennemi Holoferne pour sauver le peuple juif. Forcément, ça ne passe pas. Donc, on le réécrit et Judith devient Ildiko, donc une princesse burgonde. Et son ennemi, c'est Attila, Hetzel en allemand. Donc, l'opéra s'appellera Ildiko und Hetzel. Donc, c'est la princesse qui décapite Attila, par exemple. Un autre exemple, c'est le Judas Maccabeus, donc une œuvre de Handel, qui va être renommée Der Feldherr, le maréchal, donc en l'honneur de Hitler. Et jusqu'au Requiem de Mozart, où à l'intérieur du Requiem, certaines paroles vont être remplacées. Par exemple, In Zion, qui va devenir In Cellis. Donc, on est sur des processus d'épuration, d'arianisation, même des compositeurs morts. Donc ça, ce sont aussi des victimes collatérales qu'il ne faut jamais oublier quand on parle de toutes ces musiques dites dégénérées. Alors, il y a quelque chose qui personnifie parfaitement l'opposition qu'il y a entre Rosenberg et Goebbels, c'est des exemples d'expositions qui ont été organisées. Alors la première qui n'est pas très connue, c'est une exposition qui s'appelle donc die Große Deutsche Kunstausstellung, donc la grande exposition d'art allemand. Ça c'est 1937 à Munich et c'est Goebbels qui l'a fait organiser. En tout cas, c'est le ministère de la propagande. Donc c'est une exposition propagandiste sur l'art nazi, l'art qu'on aimerait voir se développer. Donc on est dans des clichés au niveau de l'homme, de la femme. Donc la femme, la version toujours très nourricière, l'homme toujours très musclé, et la valeur de la camaraderie, ça c'est quelque chose qui est très important. Aussi le tableau qu'on voit au fond, les fermiers, enfin les paysans à table, donc un éloge de la paysannerie saine, qui ne s'enivre pas, qui danse sur les danses folkloriques chères à Rosenberg. Donc on est en fait sur un peu le programme esthétique du parti nazi. Et ce qui est organisé en pendant, c'est le clan Rosenberg, qui va lui organiser une exposition sur l'art qu'il déteste, donc « Entartete Kunst ». Cette première exposition, c'est 1937, aussi à Munich. Donc c'est dans une autre salle. Et là, la scénographie a été pensée pour que tout soit oppressant, qu'on se sente mal. C'est complètement surchargé. Il y a des phrases parodiques sur les murs. Là, ils disent par exemple « Prenez Dada au sérieux, ça en vaut la peine ». On n'expose que les formes les plus modernes de ce qui se fait à l'époque sans expliquer la démarche, bien entendu. Ça, c'est l'exposition « Entartete Kunst » qui va avoir un grand succès et qui va circuler en Allemagne. Donc ce sont deux choses qui se passent pratiquement à la même époque. Et en 1938, Goebbels, à l'occasion du centenaire de la naissance de Wagner, veut faire organiser des journées, des grandes journées musicales, des grandes journées musicales du Reich, Reichsmusiktage, pendant lesquelles il va faire donner les œuvres des compositeurs prometteurs, donc tous les petits jeunes dont on n'entendra plus jamais parler après, puisqu'ils composaient finalement de la musique qui n'était pas si bonne, mais en tout cas, les personnalités inféodées au régime, et puis les musiques que je vais vous faire entendre tout à l'heure qui sont considérées comme officielles. Donc, qu'est-ce que va faire le clan Rosenberg ? Exposition Entartete Musik, donc cette fameuse exposition finalement qu'on connaît beaucoup plus que la version officielle de Goebbels, qui a lieu dans la même ville en 1938. Et c'est une exposition qui a été pensée avec une scénographie toujours de la même façon, très parodique, très moqueuse. Les portraits qu'on exhibe sont en général peu flatteurs. Et c'est un peu le dernier endroit d'Allemagne où on peut encore écouter cette musique à l'époque, ce qui explique en partie le succès qu'elle va avoir sur le moment. Et pour l'occasion, ils ont équipé la salle de cabines audio dans lesquelles on peut écouter des enregistrements. Donc on est sur un équipement vraiment très moderne pour l'époque. Après, en raison des concurrences, Goebbels va carrément boycotter l'exposition. Il ne va pas la visiter. Donc quand on lit aujourd'hui des fois que Goebbels a parlé à cette occasion et a défini la politique musicale du régime, c'est pas exact, il l'a fait à l'occasion des journées musicales, le pendant officiel. C'est là qu'il va dire ce que le régime voudrait. Ça va nous mener justement à ces fameuses musiques officielles. Et l'exposition, enfin le catalogue de l'exposition qui va être imprimé, a pour couverture l'illustration de gauche qui est aujourd'hui très connue. Donc c'est pas l'affiche, c'est le catalogue qui a été... Donc c'est bien sûr, c'est jamais Rosenberg qui organise directement, c'est un de ses sbires qui s'appelait Hans Severus Ziegler, qui était l'intendant du théâtre de Düsseldorf, et qui fait une compilation justement avec les portraits des compositeurs. Alors on est encore sur... de la calomnie, donc le contenu n'est pas du tout intéressant. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de voir comment le dessinateur s'est inspiré du personnage de Johnny, du Johnny Spieltauf, pour concevoir cette couverture qui est extrêmement intéressante, puisqu'à elle seule, elle montre tout ce que le régime a déclaré dégénéré. Donc, le côté raciste du régime, c'est non seulement le noir dans la caricature des nègres de l'époque colonialiste avec l'anneau. On a aussi l'étoile de la vide en boutonnière, le haut de forme et le costume des capitalistes juifs américains aux yeux du régime. C'était comme ça qu'ils les représentaient, les banquiers, ce qu'ils appelaient d'ailleurs aussi des bolcheviks. La couleur rouge qui est associée au communisme et quand même... Le saxophone, donc, qui représente non seulement le jazz, la musique interdite, mais aussi le saxophone et l'instrument qui a été décrété dégénéré par le régime. C'est le seul instrument à qui c'est arrivé, mais parce qu'on a considéré qu'il avait un son mou et que si les garçons en jouaient, ils pourraient devenir homosexuels. Donc, c'est... Eh oui, on n'a pas encore de preuves des effets de l'instrument. En tout cas... Il va y avoir des tentatives un peu permanentes pour remplacer le saxophone. Et justement, Goebbels, encore lui, va faire des tentatives pour même créer une forme de jazz nazifié, une musique de swing de l'époque nazifiée aussi. Alors, il y arrive toujours au début, mais finalement, ça finit jamais par marcher parce que les musiciens qui l'embauchent sont bons. Et donc, à force de swinguer, ça devient du vrai jazz. Donc, ça swingue trop. Donc, on les interdit. Mais au début, il y a quelques tentatives. Alors, la tentative quand même qui va être réussie et qui est vraiment intéressante, c'est un ensemble avec un nom américain donc, qui s'est appelé Charlie and His Orchestra, donc Charlie et son orchestre, qui a été créé à la demande de Goebbels pour une station de radio qui s'appelait Europa Sender, pour qu'on croie que c'était une station de radio européenne. En fait, c'est une station de radio nazie qui diffusait des nouvelles de l'Allemagne nazie, mais qui émaillait ses annonces de musique jazz. Ce qui fait que, l'autre jour, je lisais un livre d'un survivant d'Auschwitz qui s'appelle Thomas Gave, qui disait qu'un jour, il était en train de chercher une radio clandestine et il tombe sur une chanson de jazz. Et donc, il est super content. Il se dit, j'ai réussi à capter une radio clandestine. Et il commence à écouter les paroles. Et en fait, il se dit, mais en fait, c'est nazi, c'est bizarre. Et voilà, c'était le principe de Charlie and His Orchestra. Il reprenait d'abord un standard. Et soit c'était interrompu par le présentateur qui disait voici la nouvelle chanson de Winston Churchill. Alors c'est toujours Churchill qui prenait, alors on l'appelait Winnie, c'était toujours lui l'objet des attaques. Et c'était à chaque fois, je comprends pas, je me fais bombarder, mes avions ne valent rien, mes bateaux sont tout le temps détruits par les Allemands. Bon voilà, c'était changer les paroles. Outil de propagande assez efficace et assez bien pensé par Goebbels. Alors là, on va bien sûr passer vers quelque chose de beaucoup moins fantaisiste et moins drôle que ce qui se faisait sous la République de Weimar. Je vous ai dit qu'il n'y a pas une musique nazie, en fait. Il n'y a pas de véritable musique nazie pour la simple raison que, de toute façon, les nazis n'étaient pas d'accord sur ce qu'ils voulaient en termes de musique. Donc, si on pense la musique nazie au sens de Rosenberg, oui, il y a pu en avoir certaines tentatives qui étaient très mauvaises et qui, donc, étaient attaquées par le clan Goebbels. Et quand certains compositeurs, comme Hindemith, qui est un peu au début, qui joue quand même avec le régime, qui n'est pas très très clair, qui continue à composer, Goebbels l'encourage, mais le clan Rosenberg le trouve trop moderne. Donc finalement, aucun compositeur n'a fait véritablement l'unanimité, aucun compositeur vivant, sauf un, excusez-moi de le reciter, mais c'est quand même Karl Orff, les Carmina Burana, c'est la seule œuvre qui a été unanimement louée par les deux partisans des deux clans, par les partisans des deux clans. Au début, le clan Rosenberg l'a trouvée trop graveleuse parce que c'est basé sur des chansons de Goliath, donc certaines sont un peu olé-olé pour l'époque. C'est ce qui va être faire la cible des premières attaques, et c'est d'ailleurs de ça que Orff se servira après la guerre en disant « Oui, mais ma musique n'a pas été acceptée ». Et finalement, c'est tellement bien composé, ça marche tellement bien, c'est tellement efficace que c'est vraiment l'œuvre qui va être jouée à partir de... Elle est composée en 1937, ça prend bien 1 à 2 ans avant qu'elle connaisse le succès. Mais à partir de 1939, c'est la consécration avec des mises en scène grandioses. Et c'est même une des musiques qui va retentir par haut-parleur dans certains camps de concentration puisqu'elle était diffusée sur la radio allemande. Alors, hormis ce compositeur, le problème dans un premier temps, c'est donc de trouver quelqu'un de talent. Alors forcément, Hitler, il voudrait un nouveau Wagner qui ne vient pas. Donc, on va commencer par mettre en valeur les compositeurs de la grande tradition. Et avant de montrer ça, en fait, je voulais juste parler quand même donc ce rôle un peu messianique que se donne Hitler quand il dit qu'il va purifier la vie musicale allemande, ce qui est mis au point par Goebbels, qui, quand il crée sa chambre de musique du Reich, va chercher à mettre à la présidence une personnalité avec une stature internationale, et de même pour la vice-présidence. Alors, pour la présidence, il choisit Richard Strauss, qu'on voit ici à gauche. Donc, c'est au moment d'une journée d'études, justement, de travail de la chambre de musique du Reich avec Goebbels à droite, et puis au milieu, Heinz Drewes, qui était un peu son bras droit, le bras droit de Goebbels. Donc, il choisit Richard Strauss. Richard Strauss, ce n'est pas du tout une personnalité nazie. C'est un compositeur, par contre, qui est extrêmement réactionnaire, qui déteste les expériences de la République de Weimar, qui trouve que son pays est tombé, s'achemine vers une décadence. Et donc, quand il voit l'arrivée des nationaux-socialistes au pouvoir, il a un espoir de voir la grande tradition allemande restaurée. Donc, c'est une des premières choses qui va accepter cette présidence. Et la deuxième chose, c'est que c'était quelqu'un qui restait très pragmatique, comme beaucoup d'ailleurs de compositeurs qui vont un peu se compromettre. Et son intérêt, c'était aussi qu'il voulait que les droits d'auteur d'un compositeur après sa mort soient étendus à 70 ans et non pas 50 ans. Donc, il a aussi un intérêt personnel à accepter cette présidence. Quoi qu'il en soit, il fait quand même des discours, forcément, dont le discours d'ouverture des journées de travail de la Chambre musique du Reich, et il déclare « Nous allons ouvrir la voie à la création saine et ce faisant repousser et faire disparaître la création malade et nocive ». Voilà le programme. Alors, ouvrir la voie à la création saine, je vous ai dit que le chemin allait être long, donc dans un premier temps, on va ressortir, ou plutôt continuer à jouer les musiques que les Allemands aimaient et avec lesquels ils avaient été bercés. Le premier compositeur qui va vraiment être extrêmement mis à l'honneur, c'est Richard Wagner. C'est la même chose, il ne faut pas être anachronique en assimilant Richard Wagner aux idées de Hitler. Toujours est-il que oui, il a écrit un essai tellement antisémite que dans un premier temps, il l'a publié anonymement. qui s'appelait donc La judéité dans la musique, où il réglait ses comptes avec des concurrents juifs, finalement, c'est aussi ça qui le motivait quelque part. Mais ce qui est clair, c'est que Hitler va déclarer « Quiconque veut comprendre le national-socialisme doit d'abord comprendre la musique de Wagner ». Donc Wagner, il est vraiment instrumentalisé, et aussi ce qui aide à son instrumentalisation, c'est que Winifred Wagner, pour le coup, est vivante, et elle, elle est vraiment nazie, elle était complètement même amoureuse de Hitler, elle avait dû faire vœu de ne pas se remarier après la mort de Siegfried si elle voulait conserver Bayreuth, donc il ne s'est jamais rien passé entre les deux, mais c'était vraiment l'entourage intime de Hitler pour le coup. Donc c'est d'ailleurs Hitler qui va sauver Bayreuth de la faillite. Donc voilà, là c'est justement une photo de Bayreuth. Donc Hitler, il admire l'homme, le personnage, mais il admire aussi énormément la musique de Wagner. Alors c'est vrai qu'au début, moi je travaillais tellement sur Wagner dans ce contexte-là que je ne voulais pas en écouter. Bon, j'enseigne quand même la musique, l'histoire de la musique 19e à l'université, donc je me suis quand même plongée dans Wagner. Et force est de constater que c'est une musique extrêmement bien écrite, c'est quand même magnifique. Il faut réussir à dissocier le personnage, les écrits de la musique, et en tout cas, c'est une musique aussi très efficace. Quand on voit ce qu'aimait le régime, quelque chose de très massif, grand chœur, grand orchestre, des musiques rythmées, entraînantes, pas trop dissonantes. Donc, une des préférées, c'était l'ouverture des maîtres chanteurs, puisque l'histoire des maîtres chanteurs est aussi sur la restauration d'une tradition allemande, des Minnesänger, donc c'est aussi une histoire très intéressante. Et Rienzi, c'est un opéra moins connu, c'est une œuvre de jeunesse de Wagner. Mais ce qui plaisait à Hitler, c'était le livret, parce que Rienzi, ça raconte l'ascension d'un tribun, un homme qui part du peuple et qui devient tribun. Et Hitler, eh ben lui aussi, il a connu ça pendant ses années de galère où il essayait de vendre ses croûtes. Donc, il s'identifie complètement à ça. C'est ce qui va expliquer que l'ouverture de Rienzi sera souvent donnée à des occasions officielles. Voilà pour ce bref extrait. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aux journées du parti, par exemple à Nuremberg, on parle souvent des musiques qui résonnaient. Il y avait, en fait, c'était un enchaînement de plein de musiques. Donc, il pouvait y avoir à la fois l'ouverture des maîtres chanteurs de Nuremberg. Il y avait aussi le Horst Wessel Lied, donc un chant un peu plus populaire. Il y avait aussi l'hymne Deutschlandlied. Donc, il y avait beaucoup de choses qui résonnaient. Alors, il y a un autre personnage qui va être récupéré par le régime, mais justement, là, c'est pas le personnage qui est récupéré, c'est uniquement sa musique. Parce que Beethoven, quand on connaît sa vie, on peut rien trouver qui puisse être détourné et plaire à un régime nazi. En plus, même l'hymne à la joie, on était dans un mouvement un peu de création d'une identité européenne fédératrice, donc rien ne marche. C'est pas grave, les paroles restent telles quelles, mais vont donner lieu à de nouvelles interprétations sur la suprématie nazie. Ça, il n'y a pas de problème pour le trouver. Donc, c'est souvent l'hymne à la joie qui est joué, notamment pour les anniversaires de Hitler. Alors, en légende, j'ai mis que c'est Furtwängler qui dirige. Alors, Furtwängler, on en parle un peu dans le livre. Furtwängler a régulièrement dirigé les concerts d'anniversaire de Hitler, des fois en essayant de biaiser, en dirigeant la veille et pas le jour même pour dire que c'était pas... Enfin bon, bref. Mais ce qui est sûr, c'est que quand Furtwängler disait à Goebbels « Je pense pas que je vais pouvoir, j'ai des obligations », Goebbels disait « C'est pas grave, on a un petit jeune en ce moment qui est super, qui s'appelle Karajan, il va le faire sans problème ». Et là, bizarrement, les engagements, finalement, Furtwängler n'avait plus d'engagement, il pouvait assurer les concerts. Ça, c'est quelque chose qui va être très utilisé par Goebbels, c'est cette espèce de concurrence. Donc, en fait, il monte un peu tout un personnage autour de ce jeune Karajan qui, lui, adhère deux fois au parti nazi. Lui, il est vraiment... il est motivé pour avoir du travail, on va dire. Et cette concurrence va être en permanence utilisée. Et voilà. Alors, ça, j'aborde Anton Bruckner parce qu'il est symbolique de plein de choses... Comme Liszt, comme d'autres compositeurs, en fait, Bruckner est autrichien. Et ça, c'est très intéressant sur les politiques musicales du régime. C'est qu'au fur et à mesure que l'Allemagne de Hitler veut s'agrandir, avant d'annexer les pays, on annexe les compositeurs. Donc on pourrait même presque savoir quel est le prochain pays qui va être envahi quand on voit une biographie qui sort quelques mois en avance. Donc là, Bruckner... à partir du moment où le rattachement de l'Autriche, donc l'Anschluss, est décidé, tout d'un coup, on commence à entendre beaucoup de Bruckner, et surtout, on commence à entendre que Bruckner est allemand. Mais il va y avoir la même chose pour Liszt, quand même, dont le poème symphonique Les Préludes va servir de générique pour les Nouvelles de l'Est. Donc ce sont plein de compositeurs qui sont annexés, et on commence même à chercher des origines allemandes chez des compositeurs français. Enfin, ça donne des choses complètement... ubuesque, on va dire. Alors là, j'ai trouvé un document qui est assez intéressant. C'est justement ce discours de Hitler lu par Goebbels à propos de l'annexion de l'Autriche. Donc, je vais avancer parce que c'est un peu long. Donc, je vais le mettre au moment où on commence à écouter, à entendre de la musique. Et vous allez voir comment le montage a été fait. C'est avec la symphonie numéro 3, qui, comme par hasard, est dédiée à Wagner. Donc, la symphonie numéro 3 de Bruckner. Et la musique va vraiment éclater à partir du moment où Goebbels déclare « Vive l'Autriche allemande !»
Selbst als Führer und Kanzler des deutschen Volkes werde glücklich sein, nunmehr wieder als deutscher und freier Bürger jedes Land betreten zu können, das auch meine Heimat ist. Die Welt aber soll sich überzeugen, dass das deutsche Volk in Österreich in diesen Tagen Stunden seligster Freude und Ergriffenheit erlebt. Es sieht in den zu Hilfe gekommenen Brüdern die Retter aus tiefster Not. Es lebe das nationalsozialistische Deutsche Reich. Es lebe das nationalsozialistische Deutsch-Österreich. Berlin, den 12. März 1938. Adolf Hitler.
Voilà, un exemple assez édifiant de ce que ça peut donner, à tel point qu'on croit vraiment que c'est de la musique nazie. Forcément, c'est ce qui plaît, en fait, qui est accessible, c'est toujours le même type d'esthétique, c'est toujours des grands orchestres avec des grands chœurs. C'est pas une question de nazie ou de... Voilà, ça parle aux gens. Là, quand on entend cette grande explosion, voilà, c'est le pouvoir de la musique aussi. Hein. Alors, il y a quand même eu quelques compositeurs vivants qui se sont distingués puisqu'ils étaient quand même de qualité. Alors, j'ai déjà parlé de Richard Strauss. Donc, alors l'itinéraire de Richard Strauss, dont on détaille un peu plus le parcours, mais globalement, il accepte la responsabilité de la Reichsmusikkammer finalement, il se rend vite compte aussi qu'il ne va pas pouvoir faire cette épuration. Ce n'est pas non plus ses convictions profondes. Et puis l'autre chose, c'est que de toute façon, il fait mal son travail. Donc Goebbels n'est pas satisfait de ce qu'il fait. Donc il cherche un petit moyen de l'évincer, mais de façon un peu douce, parce que c'est quand même la vitrine du régime à l'époque, en 1933. Et donc, il va y avoir une histoire qui est montée en épingle. C'est qu'à l'époque, Strauss collabore avec Stefan Zweig, qui est juif, et pour Die Schweigsame Frau, donc un opéra. Et sur l'affiche, le point sur lequel Strauss ne veut pas céder, c'est qu'il ne veut pas que le nom de Zweig soit retiré de l'affiche. Et donc, il y a une querelle avec le régime qui s'ensuit. Et quand même, Zweig n'est pas content justement du fait que Strauss se laisse faire. Et ils ont un échange de lettres. Et dans une des lettres, Strauss lui dit « Mais de toute façon, j'ai accepté cette fonction-là pour que quelqu'un d'autre ne le fasse pas à ma place plus mal. Et j'essaye de faire de mon mieux, mais j'y crois pas à l'idéologie nazie. » Alors forcément, c'est intercepté par la Gestapo. Et forcément, ça arrive sur le bureau de Hitler. Donc forcément, on lui demande de prendre sa retraite. Et donc, il va prendre sa retraite. Ça tombe bien, il est déjà un peu âgé à l'époque. Il demande à être reçu par Hitler pour se justifier, parce qu'il ne peut quand même pas perdre ce poste. Il perd donc le poste. Et pendant les années, donc c'est dès 1934, pendant les années suivantes, il va continuer à composer pour le régime, notamment une œuvre de commande pour l'amitié germano-japonaise. Et une des œuvres quand même qu'il va composer, c'est l'hymne olympique de 1936, donc il n'est déjà plus en poste. Alors, vous allez l'entendre un peu de loin parce que le document que j'ai, c'est un document enregistré en direct par un journaliste américain qui assiste à l'ouverture. Donc, on entend Hitler qui déclare les JO ouverts. Et puis après, il y a le journaliste américain qui fait beaucoup de bruit parce qu'il raconte ce qui se passe. Mais derrière, on entend quand même l'hymne. Et il précise que c'est Strauss lui-même qui est en train de le diriger.
Der 11. Olympiade neuer Zeitrechnung als eröffnet.
There was Herr Hitler announcing it open. Now they're all cheering him. And the whole crowd have raised their right arms. Now this is the hymn, the Olympic hymn, and there is the visiting stars is conducting it. The runner, he's got his torch, he's a fair young man, in white shorts, running in, he's beautifully made, a very fine sight is an athlete, he's running by all the officials, people are waving their hands, and he's holding it high in his right hand, it seems to be I don't quite know what the torch is made of, but he's holding it high, taking long raking strides, and he's gone down the track. He's come away with the left, he's running up to this brazier, which he likes the Olympic crowd to keep going for the whole time, as long as the games are on. He's running up.
Bon, alors, on entend quand même en fond cette fameuse musique, qu'il faudrait justement surtout pas qualifier de musique nazie, parce que là, on est sur une musique hymnique, donc un hymne, c'est une esthétique très particulière. Si vous écoutez l'hymne de l'UEFA ou de la Coupe des Nations, on est toujours sur ce genre d'esthétique, une fois de plus, grand chœur, grand orchestre, des choses très marquantes. C'est plutôt des musiques fédératrices, en fait, c'est pas du tout spécifiquement nazie. Et ce que j'ai oublié de préciser justement sur Strauss, quand il compose par exemple donc cette musique de fête pour les 2600 ans d'existence de l'Empire du Japon, 1940, pourquoi il le fait? Parce que c'est quand même payé 10 000 marques. Il ne faut jamais non plus oublier les préoccupations un peu quotidiennes que peuvent aussi avoir les gens à l'époque. Et alors, il va y avoir quelque chose qui va être décidé en 1944, c'est l'établissement d'une liste des artistes bénis de Dieu, donc la Gott Begnadete Liste, alors que le régime était officiellement non-croyant, mais enfin, bref. Et donc, cette liste va être établie par Goebbels et Hitler conjointement, et Furtwängler, Strauss et un autre compositeur figurent sur les particulièrement irremplaçable. Il n'y a que trois noms. Donc, ce qui montre que, malgré son désaveu par le régime, on ne peut pas se passer de lui, ça reste quand même une figure importante. Alors après, au moment de la libération, Strauss, il est dans sa villa à Garmisch, les troupes américaines arrivent, il sort et dit « Je suis Richard Strauss » et tout le monde se prosterne parce que quand même, il y avait déjà ce respect pour Richard Strauss, donc il ne va pas être inquiété. Il s'exile immédiatement, il ne reviendra en Allemagne que pour mourir en 1949, donc il va échapper à toutes les questions qu'on aurait pu lui poser après la guerre. Donc le deuxième cas que j'ai déjà abordé tout à l'heure, c'est Karl Orff. Je ne vais pas vous faire écouter les Carmina Burana parce que vous les connaissez. Une musique par contre qui est très intéressante, c'est une musique qu'il a composée lui aussi pour les Jeux Olympiques, parce que c'est un peu la course aux commandes, les Jeux Olympiques. Et lui, c'est la musique pour l'entrée des jeunes, donc la parade des jeunes. Alors vous allez voir, c'est typiquement ça. Pas de la... Oui, des jeunes filles, voilà, des jeunes filles, mais il y a plusieurs, en fait, parties. Ça, c'est pour l'entrée des jeunes filles. Et c'est typiquement ce qu'on pourrait appeler une esthétique folkish, c'est-à-dire, vous allez voir, ça sonne très populaire, insouciant, sympathique, léger, voilà. On ne va pas être mauvaise langue en disant qu'il ne s'est pas foulé, mais en tout cas, ça se répète tout du long. C'est une musique unique, un peu en boucle. Alors, j'ai oublié de préciser quelque chose tout à l'heure pour ne pas être totalement mauvaise langue sur le fait qu'il ait recomposé une musique pour 100 jeunes d'été. J'avais oublié de préciser que c'était payé 5000 marks. Il faut toujours aussi garder ça en tête. Alors, Orff, c'est un personnage intéressant sous la République de Weimar parce qu'il a des idées pédagogiques qui sont très en avance. C'est lui qui a inventé une méthode qu'on pratique encore en France dans certaines écoles de musique qui s'appelle la méthode Orff pour apprendre la musique de façon ludique avec des petits instruments, des petits rythmes. Ceux qui connaissent la musique de Cage qui s'appelle Clapping Music où c'est que des mains frappées. Orff, il avait déjà écrit ça dans les années 20, ça s'appelait Clatch Canon. Donc, il avait des idées pédagogiques en avance. Il a fondé donc des écoles où on essayait de mettre en harmonie le corps et la musique. Il y avait une chorégraphe. C'était vraiment très intéressant. Par contre, pas de chance pour lui. Ce qu'il compose là, ce sont ses véritables goûts esthétiques. Il composait déjà comme ça avant l'arrivée des nazis au pouvoir. Donc si vous écoutez ses œuvres de jeunesse, il compose comme il a toujours composé. Donc il ne s'adapte pas à ce que demande le régime. Ce sont ses goûts personnels. Alors, il déteste lui aussi les modernistes de l'époque de Weimar. Je ne sais plus à propos de qui il avait décrété que c'était un créateur de merdes innommables. Donc, c'est quelqu'un qui peut aussi ne pas mâcher ses mots. Donc, voilà, il avait ce côté à la fois engagé pour la pédagogie, mais réactionnaire sur les esthétiques. Et puis, aussi préoccupation un peu pragmatique. Ce qui l'intéresse, lui, c'est de faire vendre sa méthode pédagogique au sein de la jeunesse hitlérienne, puisqu'il compose pour les jeunes. Et ce qu'il faut viser, si on veut de l'argent à l'époque, c'est toutes ces organisations massives. Donc il veut faire aussi adopter sa musique au sein de ces mouvements. Après, Orff a eu un destin après la guerre qu'on raconte. En tout cas, il va être blanchi. Et c'est quelqu'un qui, jusqu'à sa mort quand même en 1982, attaquera systématiquement dès qu'un article paraît sur ses engagements, et même sa famille aujourd'hui encore, heureusement qu'ils ne lisent pas le français, dès que quelqu'un remet en cause ou parle de ses engagements sous le régime nazi, il y a un procès, aujourd'hui encore. Donc, grâce à ça, il a gardé cette image de compositeur non entaché par le nazisme, mais il a été plus que compromis. Il était sur les listes noires de l'occupant américain qui ont été établies avant la libération. Sa grande chance, c'est que l'officier qui devait mettre ses textes en application dans le land occupé où vivait Orff, c'était un de ses anciens élèves qui avait étudié en Allemagne, un Américain, et donc il se rencontre à la fin de la guerre, et Orff lui dit... Et l'officier lui dit... Je ne sais pas ce que vous avez fait, mais vous êtes sur les listes noires, c'est assez... C'est bizarre. Et donc Orff dit, oui, je ne comprends pas, non, je ne vois pas, il y a dû avoir une erreur. Et donc l'officier lui dit, bon, il faudrait peut-être quand même prouver ce que vous avez fait, essayez de dire ce que vous avez fait. Et Orff invente rien de moins que le fait qu'il aurait été l'un des membres fondateurs de La Rose Blanche. Donc c'est le mouvement La Rose Blanche, le mouvement des Hans et Sophie Scholl. Donc il se déclare en cofondateur puisqu'il avait un de ses amis qui avait été le cofondateur. Bon bref, donc c'est comme ça qu'il va échapper à toutes ses poursuites. Alors celui qui aura moins de chance, c'est son élève Werner Heck, qui n'est plus du tout connu aujourd'hui. Et pourtant, il a eu des fonctions officielles quand même lui aussi après la guerre. Donc c'est l'élève de Orff. La différence, c'est que lui, il est vraiment en accord avec l'idéologie nazie. Il veut collaborer. Mais il n'a pas de chance, il écrit des choses trop modernes. Alors, ça ne plaît pas. Donc, sa parade, en fait, c'est de dire que quand il y a des passages un peu dissonants dans ses œuvres, mais c'est parce qu'il est en train de parler d'un personnage juif, donc c'est normal. Et après, revient la lumière. Donc, il écrit notamment un opéra qui s'appelle Die Zaubergeige, donc on voit la référence à Zauberflöte de Mozart. Sur un violon enchanté, alors c'est un violon qui exauce tous les vœux, donc le violoniste au début, il veut des femmes, il veut de l'argent, et puis finalement c'était un paysan très simple, et en fait il se rend compte qu'il s'est complètement fourvoyé, et qu'en fait celle qu'il aimait c'était sa petite fiancée, la paysanne Gretchen, qui lui faisait de la bonne cuisine, et donc bon bref, on est vraiment sur un opéra vraiment folkish au niveau du contenu, et alors, je vais vous faire écouter quand même un petit extrait, parce que c'est... La dissonance qui commençait quand même à arriver. Bon, il n'y a pas que le titre qui parodie Mozart. Là, cette tension qui commence à arriver, c'est qu'en fait, ce personnage de Caspar, qui avait son violon enchanté, a été mis sur le mauvais chemin par un méchant qui s'appelait, comme par hasard, Guldensack, donc sac de Florin, donc qui est le personnage juif de l'histoire. Et justement, ce Guldensack, à la fin, ne veut pas que Caspar récupère son violon, parce que Caspar est en train de se faire juger pour un crime qu'il n'a pas commis, et il réussit à le récupérer, et il joue une petite danse villageoise, et ça séduit tout le monde, et l'histoire se termine bien. Voilà, ça c'est le personnage de Werner Heck, qui va lui aussi composer pour les Jeux Olympiques. Alors il compose une œuvre qui s'appelle « Olympische Festmusik », puisqu'il y a eu un concours de composition qui a été lancé, en fait. Donc, pour cette œuvre, il va avoir la médaille d'or du concours de composition. ça, c'est une œuvre qui n'est absolument pas dissonante, mais il a fait des choses dissonantes pour lesquelles, en fait, il passe son temps à s'excuser. Bon, après la guerre, ça va être un peu moins simple pour lui, puisqu'il y a aussi des histoires. Eck couche avec une femme avec laquelle Orff voulait coucher, donc c'est un peu compliqué en pleine bataille pour se faire aider de compter sur un soutien d'Orff, donc il va être un peu délaissé, mis de côté par Orff, mais bon, comme tous les compositeurs après la guerre, il va s'en sortir pour la simple raison que l'Allemagne n'est pas occupée que par les Américains et qu'on est dans une course aux artistes qui fait qu'on n'a plus le temps en fait, de dénazifier en profondeur la société allemande. Et quand Furtwängler est sur la liste noire américaine, les Soviétiques l'invitent à diriger un concert dans leur zone. Donc il accepte. Donc les Américains disent « Non, c'est pas possible. On est à nouveau sur des luttes de pouvoir. » Donc ils le blanchissent. Et c'est comme ça que finalement, la très grande majorité des artistes vont être blanchis. Alors les rares exceptions d'artistes qui vont quand même écoper d'amende, c'est Elisabeth Schwarzkopf, Karl Böhm et quand même Winifred Wagner. Donc là, pour écoper d'une amende, il fallait quand même avoir été un peu loin dans les engagements, puisque même Karajan va être blanchi après la guerre. Et puis alors, le dernier compositeur, qui lui a eu un parcours très étonnant sous le Troisième Reich, c'est le troisième qui est sur cette fameuse liste des artistes irremplaçables. Donc normalement, il compte parmi les plus grands. Hans Pfitzner, je ne sais pas si son nom vous dit quelque chose. Un compositeur un peu la même génération que Strauss, donc la grande tradition allemande. Alors lui, il aime Hitler. Il veut le rencontrer, il aime les idées, il adhère à tout. On ne sait pas ce qui se passe, il se rencontre et ça ne passe pas en fait au niveau du caractère. Hitler n'accroche pas du tout avec Pfitzner. Donc Pfitzner ne va pas avoir toutes les fonctions qu'il aurait aimé avoir. Sa musique ne va pas être encouragée comme il aurait aimé qu'elle le soit. Et pourtant, il compose une musique qui peut tout à fait satisfaire les idéaux du régime. Alors quand même, cette cantate, Von Deutscher Seele, qui sonne malgré tout moderne, elle sonne très Richard Strauss d'ailleurs, du Richard Strauss avant la période nazie, on va dire la période de prise de pouvoir. Cette cantate va être donnée puisque Von Deutscher Seele, l'âme allemande, le titre en fait plaît beaucoup et elle sera donnée pendant les journées musicales du régime. Mais Pfitzner ne va pas avoir beaucoup de commandes, il ne va pas avoir de fonction véritablement officielle. Bon, c'est quelque chose qu'on n'a pas vraiment, aujourd'hui encore, qu'on n'arrive toujours pas vraiment à comprendre. Donc je vais vous faire écouter justement le début de cette cantate parce que vous allez voir que ça a été récupéré par le régime, mais c'est une esthétique qui est quand même moderne. Et puis c'est surtout que quand on parlait de l'âme allemande à l'époque, c'est sur des textes poétiques de Eichendorff, donc poète romantique. On est sur l'âme allemande dans le sens de réunir toutes les identités des différents Länder, fédérer une nation en fait. On n'est pas du tout sur quelque chose d'ultranationaliste. Ça fait vraiment beaucoup penser à la période aussi qu'a eu Richard Strauss. Donc on est vraiment sur ce qu'on appelle la musique post-romantique, c'est-à-dire qu'on est sur une certaine forme de modernité. Ça, on sent moins la tonalité, mais au même moment, il y a la Sinfonia Germanica de Schulhof, donc il est déjà un peu en retard. Pfitzner, c'est un des seuls avec Winifred Wagner qui ne regrettera, enfin qui ne regrettera qu'une chose après la guerre, c'est que Hitler l'ait perdu. Même dans ses écrits d'après-guerre, c'est quelqu'un qui ne se repentira jamais. Donc j'aurais un peu de mal à vous conseiller d'écouter sa musique. En tout cas, le concerto pour piano qu'il a composé, par exemple, un an plus tard, c'est un peu comme si on avait retrouvé une partition de Rachmaninov. Donc c'est pas du tout de la mauvaise musique, c'est de la musique qu'on appelle néo-classique. Voilà, donc je vous ai mis quelques pistes de lecture. Peut-être certains avaient vu la très très belle exposition qui avait été organisée à la Cité de la Musique il y a plus de 10 ans maintenant sur le Troisième Reich et la musique, qui a de nombreuses illustrations. Et puis, donc ce fameux livre qu'on a réalisé, qu'on a écrit à deux, donc qui est sur à la fois les compositeurs interdits, donc à droite c'est Korngold, Schulhoff, l'avant-dernier, avec les lunettes c'est Kurt Weill, et à gauche c'est Hindemith, donc voilà, où on parle aussi des musiques officielles, puisque finalement on ne peut pas très bien... On est obligé de comprendre les musiques interdites pour comprendre ce qui a résonné sous le régime nazi. On ne peut pas se passer non plus de parler des musiques officielles.